Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
Bonne journée avec RTL.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Des centaines de manifestations vont être organisées partout en France cette année pour célébrer les 500 ans de la disparition de Léonard de Vinci. Dans un instant, Sophie Orange nous emmène là où de Vinci est mort, au château du Clos-Lucé, c'est à Amboise, en Indre-et-Loire. Parmi les nouveautés en librairie, le coup de cœur de Bernard Lehu pour L'Amérique derrière moi, c'est le deuxième roman du jeune auteur Erwan Desplanques. Nouvel album d'un des quatuors français les plus réputés au monde, le quatuor Modigliani. Il est classique d'or RTL du mois de janvier. On le découvrira avec Charlotte Latour. Et puis nous n'oublierons pas nos express du jour préparés par Émeric Parpenaud. Sans oublier non plus nos programmes télé de ce soir avec Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
2019 sera donc l'année Léonard de Vinci. Le grand maître italien est mort il y a 500 ans, en France, à Amboise. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
Nous donnons le coup d'envoi des festivités ce matin. Avec vous, vous nous emmenez là où tout a commencé.
Ou plutôt là où tout s'est terminé.
Bienvenue au château du Clos-Lucé. Vous êtes ici dans la dernière demeure de Léonard de Vinci, où il rendit l'âme dans sa chambre.
C'est François Saint-Brice qui nous accueille sur le parvis. Sa famille possède le Clos-Lucé, situé à une encablure du château d'Amboise, que l'on voit d'ailleurs de la terrasse. C'est ici qu'est arrivé en 1516 le grand maître Léonard en provenance d'Italie, sur invitation du roi de France, François Ier, qui vénérait le peintre. Un voyage de plus d'un mois à travers les Alpes, ses bagages en cuir accrochés au dos de mulet.
Il faut imaginer ici cette porte médiévale en ogive, où Léonard de Vinci arrive au Clos-Lucé. Le roi l'accueille en lui disant « Tu es libre, Léonard, ici, de rêver, de penser et de travailler. » Il entre ici et il voit cette demeure en briques et pierres. Léonard de Vinci était déjà illustrissime. Tout le monde se disputait ses talents.
Léonard de Vinci avait 64 ans en 1516 lorsqu'il arriva en France, un âge canonique pour l'époque. Oui. François Ier le nomme premier peintre, premier architecte, premier ingénieur du roi. Dans ses bagages, des dizaines de carnets écrits en écriture inversée, il faut un miroir pour les lire, croquis, dessins et trois tableaux. Saint Jean-Baptiste, la Vierge à l'enfant avec Sainte Anne et, figurez-vous, la Joconde.
Alors ça paraît incroyable et il continue à peindre en France ?
Il n'arrête pas de travailler.
Alors là, on rentre dans le Saint des Saints qui est en fait les ateliers de Léonard. C'est là où il vit en fait toute la journée. Atelier de peinture, vous voyez la table où on prépare les pigments, ses manuscrits, l'atelier de sculpture et puis la table où il travaille avec ses dessins. Et puis, nous rentrons maintenant dans la deuxième salle. C'est dans l'après-midi, Léonard se recueille, travaille. Il y a sa bibliothèque. À côté, ce cabinet scientifique, des ammonites, mais aussi des instruments de mesure, comme ses astrolabes, ses planisphères, une chauve-souris.
Et tout au bout, un studiolo, un petit boudoir. On a l'impression que Léonard est toujours là. Léonard de Vinci, grand organisateur de fêtes, vegan, amateur de bon vin, il voulait remercier le roi de ses bienfaits.
Voilà, nous sommes dans la galerie. C'est ici que la cour était installée lorsque Léonard donnait ses fêtes. Il avait installé un dais avec tous les signes de la cosmogonie et tous les signes du zodiaque en mouvement. 350 candélabres et il semblait que la nuit fût chassée. Il dessinait les costumes, un peu comme Marc Jacobs. Il était aussi passé maître dans l'art des effets spéciaux comme Georges Lucas. Il avait une voix extraordinaire, une prestance magnifique. Tout le monde l'aimait.
Mais la pièce la plus émouvante, c'est bien sûr au premier étage.
Nous allons regagner sa chambre. Et c'est là que Léonard est mort, le 2 mai 1519, après avoir rédigé son testament. C'est une pièce effectivement haute de plafond, avec une poutre maîtresse, une cheminée, une table, du mobilier italien, et puis ce lit à baldaquin dans lequel Léonard de Vinci faisait de beaux rêves.
Et je vous assure que son âme plane encore 500 ans après. À ne pas manquer au sous-sol et dans le parc, de très nombreuses maquettes réalisées à partir des plans et des dessins de Léonard de Vinci. Que voulez-vous que le visiteur retienne de ce voyage dans cette demeure ?
Et qu'il ait le sentiment que pouvait aussi avoir Léonard des dernières années de bonheur. Cette maison qui ne nous appartient pas, qui appartient à l'humanité.
Que va-t-il se passer au Clos Lucé pour les 500 ans de cette mort ?
Énormément de choses. Deux expositions, des conférences, des colloques, des concerts. Au total, dans le centre Val-de-Loire, des centaines de manifestations. Et à Paris, l'événement, ce sera au musée du Louvre avec l'exposition exceptionnelle consacrée aux peintres en octobre. Plusieurs tableaux qui ne voyagent plus devraient venir d'Italie et du musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Mais c'est à l'école des Beaux-Arts que sont lancées les célébrations de ce 500e anniversaire. Une exposition de dessins originaux de Léonard, Raphaël, Lippi ou Gozzoli. Une merveille absolue. Découvrons avec Emmanuel Brugerolles les quatre dessins originaux de Léonard.
Tout d'abord, une première feuille pour un tableau qui est l'adoration des mages, finalement inachevée. Et vous avez là des études de figures en plein mouvement, dans une technique qui lui est chère. Tout d'abord, il les trace à la pointe de métal et il reprend ensuite ce travail à la plume encre brune. Vous avez aussi deux études de tête, de vieillard, sans concession, avec ses joues tombantes, ses lèvres serrées, ses rides, ses têtes chauves. Le dernier dessin est sans doute le plus emblématique du génie de l'artiste, des études de balistique, concevoir des nouvelles armes.
Une exposition gratuite, formidable à découvrir à l'École des Beaux-Arts à Paris et au château du Clos Lucé. Vous pourrez donc découvrir tous les jours de l'année Léonard de Vinci en toute intimité.
Merci beaucoup Sophie Orange pour cette double visite. Dans un instant, Émeric Partenot, Les Express de Laissez-vous tenter.
RTL Matin,
Laissez-vous tenter
avec Yves Calvi, Les Express LVT.
9h08, voici nos express du jour préparés par Émeric Partenot de la rédaction d'RTL.fr. Bonjour Émeric.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
C'est une info RTL, on vous dit tout ou presque sur le prochain roman de Guillaume Musso.
Oui, il sera publié le 2 avril et il aura pour titre La vie secrète des écrivains. Seul indice sur l'intrigue fournie par l'éditeur Calman Levy, il sera question d'un suspense littéraire mettant en scène un ou plusieurs écrivains sur une île de Méditerranée. Alors, ce sera le 16e roman de Guillaume Musso et à coup sûr l'un des plus attendus de l'année. Rappelons que l'auteur originaire d'Antibes s'est classé en 2018 pour la 8e fois consécutive en tête des écrivains les plus lus par les Français.
Hier, nous avons appris les noms des films et des personnalités du cinéma nommés au César.
Oui, et pour 2019, ce sont deux films qui se tirent la bourre avec 10 nominations chacun. Le Grand Bain de Gilles Lelouch et son incroyable équipe de natation synchronisée et le drame familial suffocant Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. Derrière, avec 9 nominations, nous retrouvons En liberté de Pierre Salvadori et Les Frères Sisters de Jacques Audiard. C'est Kad Merad qui a annoncé la nouvelle aux heureux nommés. Il sera le maître de cérémonie lors de la soirée des Césars et il n'a pas hésité longtemps.
Je vous dis la vérité, j'ai réfléchi une journée. Une journée. On m'avait proposé des années auparavant de présenter les Césars. J'avais refusé pour plein de raisons, problème de planning, problème d'envie. Il y a des moments comme ça où on se dit tiens, c'est peut-être tiens, maintenant oui, je veux bien. Parce que évidemment, être le maître des cérémonies des Césars, ça représente quand même beaucoup de préparation en fait. Donc voilà, donc il fallait que j'aie le temps, et comme j'ai vu que j'avais ce temps-là, j'ai dit oui. Après, quand j'ai vu que j'avais la liberté, avec évidemment des règles, bien sûr, un protocole, un cahier des charges, mais ça c'est normal. Sachant que je fais partie de la grande famille du cinéma, n'oubliez pas Stéphane.
Ouais, Stéphane, c'est Stéphane Wood, ça, bien sûr. Alors la 44e cérémonie des Césars sera à suivre sur RTL de 20h à minuit, le vendredi 22 février, en partenariat avec Canal+.
Ça fait partie des deux nuits où Stéphane Woodstock ne dort pas.
Oui. Exactement.
Voilà. Le festival d'Angoulême qui célèbre chaque année la bande dessinée vient de commencer en sacrant une dessinatrice, et c'est pas tous les jours.
Hein. Oui, une femme et une japonaise, c'est Rumiko Takahashi qui vient de recevoir hier soir le prix du festival, le grand prix du festival. Mmh. C'est un petit événement, hein. Depuis 1974, on compte un seul mangaka et deux femmes dans l'histoire de ce prix. Rumiko Takahashi, ce n'est pas une mystérieuse inconnue en France. Son œuvre la plus célèbre, c'est Ranma 1/2. Moitié soleil et moitié pluie. Et il y a aussi Juliette, je t'aime.
Juliette, je t'aime. Juliette, je t'aime. Notre rayon de soleil, c'est toi.
Alors, ce sont deux mangas qui sont devenus des dessins animés diffusés sur notre club Dorothée National. Samedi, ce sont les Fauves d'Or qui seront remis. Les prix qui célébreront les meilleurs BD de l'année.
Et on reste pour mon plus grand bonheur dans la BD. Pour la première fois, les lecteurs d'Astérix vont pouvoir redécouvrir le tout premier album des aventures du petit Gaulois.
Oui, Astérix, le Gaulois, vient d'être réédité à l'occasion des 60 ans du personnage d'Uderzo et Goscinny. L'album sera tiré à seulement 5000 exemplaires. À l'intérieur, 44 pages originales en noir et blanc, l'album en couleur, et 32 pages sur les coulisses de la création de l'album, reprenant les documents de travail inédits des deux auteurs.
C'est formidable, merci Émeric. C'était les express de Laissez-vous tenter. Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour.
Parmi les nombreuses nouveautés de ce début d'année en librairie, vous êtes tombé sous le charme de L'Amérique derrière moi. C'est le second roman d'un jeune auteur, Erwan Desplanques.
Oui, roman totalement autobiographique. Le père d'Erwan Desplanques lui annonce qu'il est atteint d'un cancer du poumon. Deux jours plus tard, l'auteur apprend qu'il va devenir papa pour la première fois.
Mon père était malade et dans ses derniers jours, je me suis approché de lui en lui disant que j'allais écrire un livre sur lui, sur son histoire, aussi sur moi, sur mon enfance, sur ce qu'on avait vécu ensemble, mettre en forme, mettre en scène tout ce qu'était cet homme, avec son exubérance, avec ses silences, et tout ce qu'était la complexité de nos rapports, des rapports d'un père et de son fils, sachant que j'allais moi-même devenir père à ce moment-là.
L'Amérique derrière moi naît donc de cette promesse du fils à son père. Et sur ce thème pourtant rebattu du passage de relais entre les générations, de la concomitance, d'une vie qui s'achève et d'une autre qui commence, Erwan Desplanques réussit la prouesse de nous passionner, nous séduire, nous émouvoir, mais aussi nous faire rire, d'abord et d'abord grâce à ce père excentrique, dingue d'Amérique, jusque dans les moindres détails du quotidien.
Il s'habillait au surplus militaire américain, il portait les chaussettes officielles de la Maison Blanche, il avait un facsimilé de passeport américain qui recouvrait son passeport français.
Son passeport français,
et
oui.
Il a même été enterré avec un drapeau américain et les honneurs américains qui lui ont été rendus. À la fin de sa vie, il avait créé un comité de jumelage entre la ville de Reims, où j'ai grandi, et la ville d'Arlington, qui est le cimetière militaire américain. Quand on a vu la petite fille du général Patton s'avancer à la cérémonie et chanter l'hymne américain, tout ça a pris un tour hallucinant. Et je me suis senti rattrapé par la réussite de la fiction américaine de mon père, qui s'était finalement incarné.
Oui. Alors, au-delà de la personnalité atypique de ce père, c'est surtout l'art et la manière d'écrire d'Erwan Desplanques qui donne tout son sel à ce livre au charme souvent irrésistible.
Quand mon père est décédé, la première phrase de ma mère était... C'est dommage, on commençait tout juste à bien s'entendre. Et voilà, et ça c'est le genre de truc qui peut nous faire éclater de rire, mais ça arrive tout le temps, dans les moments les plus graves, surgit la farce, et il faut savoir l'accueillir, et sans complaisance non plus, mais savoir aussi offrir, notamment quand on écrit un texte de cet ordre-là, c'est pour ça que le texte est court et que j'essaie d'y amener une certaine pudeur, c'est qu'à chaque moment un peu grave où je vais creuser la question du chagrin, de la disparition, de ce que ça provoque en nous, je me permets un petit moment de dérision, de pointer un détail burlesque qui surgit.
Chez nous, un éclat de rire soldait l'ardoise, écrit Erwan Desplanques. Une ardoise parfois lourde hein, dans cette famille, où, je cite toujours, le mensonge était une habitude de la maison, où les parents se livraient à une guérilla permanente, divorcèrent pour se remarier un peu plus tard, une drôle d'atmosphère domestique qui nous vaut des scènes, là encore, burlesques.
Quand mon père m'avait offert un casque pour tirer au fusil à pompe, et comme moi, mes parents s'engueulaient toute la journée, je mettais mon casque sur les oreilles.
Pendant les repas à table.
Oui, ils avaient accepté que je porte ce casque anti-bruit, ce casque de tir à table pour éviter de les entendre s'engueuler. Et donc ce casque m'a bien servi, m'a bien protégé pendant un certain temps, pendant tout le temps de leur divorce et de leur réconciliation un peu compliquée, pendant qu'ils soldaient leur compte. Et je l'ai gardé et je continue à travailler avec quand j'écris. Et c'est un petit hommage que je leur rends et un souvenir de jeunesse.
Alors c'est drôle, c'est drôle et effrayant. Hein. Tout le livre d'Erwan Desplanques balance ainsi du rire à l'émotion.
Oui, et comme dans ce très beau passage sur les mains, celle du mourant et celle du nouveau-né.
Et justement, à la naissance de mon fils, j'ai vu qu'il s'agrippait tout de suite à ma main. Et forcément, ça m'a rappelé le moment, 3 semaines avant, où mon père serrait ma main au moment de mourir. J'étais vraiment au cœur de ce passage de relais, mais qui est finalement une expérience assez fréquente. Et depuis que le livre est sorti, je rencontre certaines personnes, certains lecteurs de mon âge qui me disent avoir vécu exactement la même chose, cette coïncidence malencontreuse, tragique. Et pourtant, hélas, commune de perdre son père et de devenir père à son tour, parfois quelques jours, quelques semaines, quelques mois d'intervalle.
Tendre et mélancolique, drôle et émouvant, intime et pourtant universel, voilà décidément un livre plein de charme et de délicatesse que nous offre Erwan Desplanques. Au fait, s'il avait pu dédicacer l'Amérique derrière moi à son père, que lui aurait-il écrit ?
Je pense que j'aurais essayé de faire une dédicace en anglais pour lui faire plaisir, pour être dans sa langue qu'il aurait souhaité maternelle. Mais la réalité, c'est qu'en finissant ce livre, je me suis dit, promesse tenue. C'était une façon pour moi, en tout cas, de me donner l'illusion de le ressusciter le temps de 2 heures ou 3 heures de lecture. Pour moi, c'est une satisfaction très profonde. J'ai l'impression d'avoir rempli mon boulot de fils.
Promesse tenue, bah oui, c'est pas mal finalement.
Exactement, c'est ce que j'aurais pu mettre en dédicace.
Oui, la promesse faite à un père mourant est donc brillamment respectée par le fils. L'Amérique derrière moi est publiée aux éditions de l'Olivier.
Merci beaucoup Bernard. Musique classique à présent avec vous Charlotte Latour, bonjour.
Bonjour.
Ils sont quatre garçons, ils sont français, ils forment le quatuor Modigliani. Ils fêtent leur anniversaire en sortant un nouveau disque.
Et oui, les maudits, comme on les appelle. Et oui, ces quatre copains rencontrés sur les bancs du conservatoire à Paris ont formé ce quatuor à la remarquable renommée il y a 15 ans. De quoi fêter ça en musique. Portrait vient de sortir, c'est le classique d'or de ce mois de janvier, extrait avec un menuet de Schubert. L'album s'appelle Portrait, clin d'œil au nom du groupe et au peintre Modigliani, célèbre pour ses visages expressifs aux couleurs tantôt vives, tantôt neutres. La musique du quatuor, deux violons, un alto et un violoncelle, possède elle aussi des couleurs variées. C'est manifeste sur cet album où chacune des 13 pistes a son identité propre. Mon coup de cœur va au fameux adagio de Barber, une pièce entendue le plus souvent avec orchestre, alors que Samuel Barber l'a composée originalement pour un quatuor à cordes, c'était en 1936. François Kiefer, le violoncelliste du groupe, et Amaury Cueto, premier violon, nous en disent plus sur son enregistrement.
Ça n'a pas été si facile d'enregistrer une pièce comme ça. On a essayé de trouver le son le soir, quand les instruments étaient ouverts, avec cette montée en puissance. Mais je crois qu'on était heureux de pouvoir enregistrer vraiment cette pièce.
Ça s'enregistre forcément le soir, un adagio de Barber.
Il y a peut-être plus de rêverie, peut-être que le son est plus chaleureux en fait.
Puis c'est vrai que ce sont des journées d'enregistrement qui sont très longues, donc physiquement on arrive dans un état un petit peu second, qui correspond peut-être aussi à ce genre d'œuvre où on essaye de se surpasser. Pratiquement on imagine les nuits étoilées.
De cette pièce, c'est cette immense tension dans ce sentiment de tristesse. Les Modigliani rendent cela à la perfection avec un son délicieusement feutré. Alors j'évoquais la variété des morceaux présents sur l'album. Eh bien, on va rester chez les compositeurs américains avec une originalité. Maintenant, on change complètement de registre. C'est signé Leroy Anderson. La pièce s'appelle Plink Plank Plunk et elle se joue en pizzicati, c'est-à-dire en pinçant les cordes avec les doigts. Une pièce que les quatre garçons jouent parfois en bis à la fin de leur spectacle.
C'est charmant tout ça. Dites-moi, les membres du quatuor Modigliani sont les mêmes depuis la création du groupe?
Alors, il a un petit peu changé. Cette physionomie a un peu changé il y a 2 ans. Son premier violon de l'époque, Philippe Bernard, a quitté le groupe. Et alors que l'ensemble aurait pu se retrouver complètement accablé, eh bien non. L'arrivée d'Amaury Cueto à ce poste clé de premier violon a insufflé une nouvelle énergie, l'envie de nouveaux défis. Et dans les années qui viennent, les garçons vont enregistrer l'intégrale des quatuors de Beethoven. Une œuvre contemporaine est aussi en train d'être créée spécialement pour eux. Bref, la vie est belle chez les Modigliani.
Déjà, 15 ans ensemble, ça me paraît être un beau score. Après, nous, on est heureux d'être ensemble, on est heureux de partager la musique ensemble. On se rend compte qu'on a fait beaucoup de concerts cette année, beaucoup de tournées. On va essayer de ralentir peut-être un petit peu le rythme pour pouvoir aussi prendre du temps simplement pour aller complètement au fond des choses et puis pouvoir aussi vivre sa vie de famille différemment. Mais je crois qu'on a envie, tous les quatre, d'aller le plus loin possible.
L'album, un scherzo de Rachmaninov. On connaît le compositeur russe plutôt tourmenté, plutôt versé dans le piano ou la musique orchestrale, mais là il est méconnaissable. C'est une œuvre de jeunesse, tout en légèreté, éditée après la mort du musicien. Ces derniers mois, ils ont sillonné la planète du Japon au Brésil en passant par les États-Unis. Il y a bien une centaine de concerts par an, plus les festivals qu'ils organisent, plus les masterclass qu'ils donnent de par le monde. Ils méritent bien de ralentir un petit peu le rythme, nos Modigliani. Leur nouvel album est harmonieux, raffiné. Le son est toujours d'une grande précision. C'est notre classique d'or du mois. Il s'appelle Portrait et il est paru chez Mirare. Vous les retrouverez en concert du 26 janvier au 3 février à la Folle Journée de Nantes. Et puis le 4 février à Reims et le 5 à Clermont-Ferrand.
Une bien quand ça se termine comme ça, ça suspend un petit peu. Dans un instant, nous allons parler télévision. Merci Charlotte Latour. Et la télé, ce sera avec Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
9h24, on commence avec les audiences et médiamétrie, Isabelle Morini-Bosque.
Eh bien, tout se joue entre les deux fictions du soir. Esprit criminel, effectivement, fait mieux qu'une New York unité spéciale en rassemblant 4 400 000 personnes. Sur la 1, hier, près de 19% du public. Mais Philharmonia démarre bien sur la 2. Ce feuilleton est en effet regardé par 3 700 000 téléspectateurs, près de 16% du public sur la 2. C'est pas mal du tout. Et on note enfin que le meilleur pâtissier fait mieux que la Coupe de France PSG Strasbourg sur la 3, 20 000 de plus. Eh bien, ça se prend.
Bon, j'ai regardé le foot, moi. On commence par signaler l'émission politique ce soir sur la 2, un programme de plus de 2 heures.
Oh là, vous pouvez aller jusqu'à 3, vu qu'il y a en fait deux parties, deux sauts de suite étaient raisonnables. Deux parties oui. De 1h30 minutes, le second volet de 95 minutes même, étant réservé à la prise de parole de personnalités de la vie civile, selon la formule consacrée.
Oui, oui.
Avec donc pêle-mêle ce soir Jean-Michel Blanquer, Marlène Schiappa, Rachida Dati, Benoît Hamon, Cécile Duflot, Bernard Tapie, Anne Hidalgo, des élus locaux comme Gaël Perdriau de Saint-Etienne ou Éric Piolle de Grenoble, d'où un débat. Au débit dont l'audience sera un baromètre à propos d'audience. Est-ce que vous vous souvenez quel est l'invité qui en a fait le plus depuis la création de ce programme en 2016 ?
Non.
Bah écoutez, comme c'est toujours lié à un moment d'actualité fort, hein, on a en tête Emmanuel Macron le 6 avril 2017, près de 3 600 000 fanas. Deuxième, Marine Le Pen en février 2017, 3 500 000. Troisième, François Fillon sans surprise, c'était en mars 2017, 3 300 000. Et enfin, Nicolas Hulot après sa démission, 3 220 000. Par pudeur, on taira le nom de l'élu qui a fait le moins d'audience. On ne dira donc pas qu'il s'agit de Gérald Darmanin en mars 2018, 1 420 000.
La suite demain. Oui. Alors, on signale la fin de Il Miracolo sur Arte, un feuilleton encensé par la critique.
Et suivi par le public, il a en effet été regardé par 800 000 curieux de moyenne. C'est beaucoup pour Arte. C'est beaucoup aussi pour ce feuilleton, avec également 2 500 000 vidéos vues côté web. Dans Il Miracolo, le miracle, on se souvient qu'il s'agit d'une statue de la Vierge qui a été trouvée pleurant des larmes de sang à gros bouillon, hein, 9 oui. litres par heure.
Oula.
Et cette découverte tire certains individus vers le haut, d'autres vers le bas. C'est tout le principe des épisodes. On a ainsi un curieux prêtre, franchement pas catholique, qui paye sa dette à son créancier en tickets à gagner, à gratter gagnant.
Je t'ai apporté ça.
Et c'est quoi tout ça ?
Des cartes à gratter. Tiens, tu peux regarder toutes gagnantes. Il y en a même à 1000 euros. C'est plus que ce que je te dois.
Des cartes à gratter.
Bon.
Tiens, vérifie-moi ça. Dis Marcello. Pardon, mais dis-moi la vérité. T'as déjà été prêtre dans ta vie ? Un vrai prêtre ?
Pourquoi ?
D'après moi, t'es pas croyant. Je sais pas. Un feeling que j'ai comme ça.
Je n'ai jamais été plus qu'aujourd'hui.
Si, tu le dis. Blague à part, toi et moi, maintenant, on est quitte. Va savoir si on se reverra un jour. Je te chercherai dans les nécros du journal.
Voilà, j'aime bien cet extrait parce qu'il est clair. En effet, j'aime l'histoire, pas du tout la réalisation de l'écrivain Niccolò Ammaniti, jugé génial. Moi, manifestement, je suis plus faite pour la clarté que pour le génie et croyez bien que je le regrette.
Bah oui. Alors, on termine avec France 5 qui fait découvrir les Nazca, c'est comme
oui,
ça qu'on
alors les Nazca, rien à voir avec les mangas, les ninjas, ce sont ces habitants du sud du Pérou qui, il y a plus de 2000 ans, ont créé ces immenses dessins, ces fresques dans la pampa, visibles seulement du ciel et pourtant dessinées par des hommes au ras du sol qui ne voyaient donc absolument pas le produit fini qu'ils avaient réalisé et qui reproduisait de façon mathématique ces figures géométriques dont on apprend ce soir que c'était en fait fait pour que les êtres supérieurs les voient, pas les autres, et pour servir de plateforme au rite des pèlerins. C'est émouvant de voir la mise à jour de momies vieilles de 400 ans avant Jésus-Christ, dont on cherche l'ADN, qui sont ensuite reconstituées en 3D, qu'on réensable après pour la préservation. Et puis on en apprend beaucoup dans tous les domaines. Moi, comme j'ai un petit esprit, j'aime bien les détails. Par exemple, sur le colibri, dont la figure sur le sol est de 109 mètres de long sur 50 de côté. Écoutez le responsable des fouilles.
La tradition des géoglyphes de l'époque Nazca commence avec un ensemble de représentations d'oiseaux, d'animaux divers, que nous retrouvons non seulement dans les déserts de la Pampa, mais également sur les céramiques. Parmi les dessins les plus emblématiques, on trouve surtout celui du colibri. Le colibri est souvent associé à la fleur dont il retire le nectar. La représentation du colibri est très symbolique, parce qu'il a la possibilité, en cas de peur ou de danger, d'arrêter son cœur et par conséquent de faire le mort, puis de revenir à la vie. C'est un peu le symbole de la résurrection de la Pampa de Nazca.
Voilà, le colibri peut mourir et ressusciter. Donc, oui, le responsable des fouilles est italien.
Voilà.
Enfin, entre autres, il y a tellement de nationalités sur ce chantier.
Bah oui,
c'est formidable. Et ça s'appelle des géoglyphes, ces dessins.
Et c'est sur France 5.
Et c'est sur France 5 et c'est bien.
Très bien. Dans un instant, Monsieur Courbet. merci pour ce délicieux moment passé avec toute l'équipe. Nous allons retrouver maintenant Julien Courbet qui faisait quelques petits exercices d'extension.
Moi je m'étire un petit peu. Avant, c'est normal pour être bien. Il y a Maître Decaumont, lui, qui essaie de s'étirer mais qui n'y arrive plus depuis maintenant un petit bout de temps, mais qui est là quand même.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors, je ne sais pas, vous vous étirez, vous ?
Oui, bien sûr.
Voilà.
On ne sait pas par qui.
Je suis navré. Ça sera coupé au montage.
Bien sûr, au montage, on le retire.
J'ai eu sa femme l'autre jour au téléphone.
Oui.
Pardon, que dit Maître ?
Quand on s'étire, on gagne des semaines, voire des mois de vie, paraît-il.
Comme les chats.
Eh bien, écoutez, elle est contente, Nathalie.
J'aimerais rappeler à tout le monde que ça passe à l'antenne, ce qu'on dit. Parce que là, ça fait quand même barre du PMU du coin où on est en train de...
J'aimerais une petite mise au point. Vous commenciez à évoquer l'épouse de Maître Decaumont, c'est ça ?
Oui, qui me remercie chaque jour de le prendre à l'antenne. Elle me dit que pendant que vous l'avez, il ne me gonfle pas parce qu'avec ses bêtises et ses blagues scabreuses. Je vous souhaite une bonne journée.
On vous souhaite une bonne émission.
À bientôt.
Vous écoutez RTL.